Chapitre 10. Un peu plus tard dans l'après-midi, Freddy approcha une chaise droite du lit de sa femme pour y faire s'asseoir Palmyre, qui avait insisté pour monter à l'étage malgré la dizaine de marches qu'elle devait gravir. Après avoir fait la rencontre de son arrière-petit-fils à l'aube, elle voulait s'assurer que Madeleine se portait bien. Allongée contre les oreillers, la jeune femme observait tendrement son bébé qui dormait sur elle lorsque Palmyre s'installa à ses côtés. Elle tendit le poupon à son mari, qu'il déposa ensuite dans les bras de sa grand-mère. « On a décidé de l'appeler Arthur, comme grand-papa. » chuchota Madeleine avec un trémolo dans la voix. « Oh! » Les yeux pâles de l'aïeule se voilèrent aussitôt de larmes qu'elle essuya d'une main tremblante. Quel bonheur de savoir que son époux décédé se voyait ainsi honoré. Touchant la joue satinée de l'enfant, Palmyre murmura avec tendresse « « Bienvenue chez nous, mon petit Arthur. Avec un tel prénom, tu seras un homme bon, j'en suis convaincue. » Pendant un long moment, la vieille femme chantonna en berçant le bébé de gauche à droite avec une douceur qui faisait bon à voir. Freddy et Madeleine se tenaient la main en appréciant cet instant qui mettait un baume sur la lourdeur des dernières semaines. L'arrivée d'Arthur dans la famille briserait sûrement la mélancolie qui s'était installée dans la maison. Du moins, c'est ce que tous espéraient. Le lendemain matin, le 19 août, Madeleine se réveilla avec un fol espoir au fond du cœur. Pendant la nuit, alors que son bébé tétait contre son sein, la femme avait prié afin que sa sœur Simone trouve le chemin du pardon à travers cette nouvelle naissance. Au moins, avait-elle pensé en fixant tendrement le visage de son nouveau-né sur lequel un rayon de lune déposait un éclairage feutré, elle n'a pas envoyé promener Freddy. Ça veut peut-être dire qu'elle commence à me pardonner. Si elle avait su qu'au même moment son époux était dans tous ses états à l'idée de côtoyer Tom, Madeleine aurait déchanté. Avant de quitter la maison pour sa journée de pêche, Freddy avait déposé un plateau pour le déjeuner de la nouvelle mère sur le bureau de la chambre. Comme les femmes avaient boulangé la veille de l'accouchement, ils avaient une réserve d'une dizaine de gros pains fesses. Depuis quelques années, Palmyre s'était résigné à laisser cette tâche à Madeleine. Mais trois jours plus tôt, malgré son âge et sa démarche hésitante, elle s'était occupée du four extérieur pour la production de pain. « Grand-mère, soyez prudente, vous là », l'avait sermonné Madeleine en la suivant pas à pas. « Arrête de me traiter comme une enfant, m'a dit. Je suis encore capable de faire cuire du pain. Je sais bien ça, mais il manquerait plus juste que vous tombiez en vous y rendant. Ça fait que je vais vous accompagner. » L'octogénaire avait voulu refuser, mais elle allait vite réaliser qu'elle ne marcherait pas seule jusqu'au four placé le long de la clôture entre leur terrain et celui du voisin. Par contre, une fois rendue, Palmyre avait insisté pour que sa petite-fille se repose en s'assoyant sur un banc de fortune installé par Marcelin, deux décennies auparavant. Usé par le temps, le bois avait grisonné, mais il était encore solide. Madeleine avait compris que sa grand-mère adorait se sentir aussi utile et avait cessé de s'obstiner pour l'aider. De toute manière, son dos la faisait tant souffrir qu'elle aurait eu de la difficulté à se pencher pour enfourner les miches. La veille, pendant la journée, Palmyre était retournée dans la cour et y avait cuit des fèves au lard pour éviter de surchauffer la maison. « Quand on était jeunes chez nous, on faisait tout cuire là-dedans l'été. » Vous êtes chanceux de nos jours avec vos gros poils, mais nous autres, c'était loin d'être la même affaire. » Madeleine avait retenu un sourire et l'avait remerciée avec effusion. Dieu qu'elle aimait sa grand-mère. Cette dernière n'avait jamais autant cuisiné que durant la dernière semaine, et ce matin-là, Freddy était parti à la grave avec une double portion de chiard de goélette, préparée par Palmyre. Fricassé composé de lard salé, d'oignons et de pommes de terre, ce menu avait l'avantage de bien se conserver. Le jeune pêcheur espérait que ce repas à partager adoucirait la réunion avec Tom. Quand il mit le pied sur le quai, Freddy vit tout de suite au visage fermé de son beau-frère que la naissance d'Arthur n'était plus un secret. « Salut! Salut! » La gorge nouée, le pauvre Freddy réfléchit à toute vitesse afin de trouver la manière d'aborder le sujet. Comme il sautait dans la barge, Tom se tourna vers son beau-frère et leva la main de manière défensive devant lui. « Écoute-moi bien. Si tu veux qu'on continue à pêcher ensemble, je veux pas entendre un mot sur le bébé. » Estomaqué, Freddy replaça sa casquette sur ses cheveux drus en tapotant sa poche de pantalon à la recherche de ses cigarettes. Lui qui flottait sur un nuage depuis la veille, voilà que la réalité le frappait de plein fouet. « Quand même, Tom, » osa-t-il. « Non !» claqua la voix sèche du grand moustachu. « Passe-moi les lignes à pêche, c'est tout. Si tu veux qu'on continue ensemble, » répéta-t-il, « on va parler de tout, sauf de ça, c'est compris ?» Le mari de Simone posa son regard blessé sur Freddy, qui fit un rictus en coinçant la cigarette au coin de ses lèvres. Avait-il le choix? Il ne voulait pas être forcé d'aller travailler pour la Robin qui lui enlèverait sa liberté. Sans place sur un bateau, Freddy s'imaginait obligé de devenir terrien pour la grosse compagnie, et juste à cette idée, la sueur se mit à perler sur son front. Sa vie était sur la mer. Il enleva sa casquette, s'épongea du dos de la main et hocha la tête malgré sa colère. Il faudrait toujours bien qu'ils en reviennent un jour de la mort des lois, songea l'homme en lançant les filets dans le bateau. « Émile !» cria-t-il à son engagé qui vérifiait les vigneaux. « Apporte les harengs !» Le costaud s'avança vers la caisse de bois dans laquelle se trouvaient les poissons qui servaient d'appât. Pendant que les pêcheurs préparaient leur bateau, les hommes sur la plage avaient levé les filets tendus la veille près de la rive. Ils s'étaient empressés de démailler les petits poissons gris avant de les répartir entre les pêcheurs. Quand Tom vit la faible quantité de poissons apportés par Émile, il grogna. « Va falloir aller à la dérive bientôt si on veut assez de bouettes pour apporter nos lignes. C'est pas avec ça qu'on va faire notre journée. » Les trois hommes se mirent à discuter de la possibilité de sortir en mer la nuit suivante pour pêcher le lançon, un petit poisson osseux apprécié par la morue. Quand le hareng se faisait rare à la fin de l'été, il fallait trouver un appât de remplacement. Sans réfléchir, Freddy lança d'un ton enjoué « Cette nuit, par contre, ce serait préférable que je donne un coup de main à Maddy avec le « Ça fait qu'Émile, tu viendras avec moi. » Le coupa Tom en faisant semblant de ne pas remarquer le malaise du jeune engagé. Émile faisait tout pour éviter de se mêler des conversations qui concernaient la mort des lois. Il appréciait beaucoup Madeleine, et savoir qu'elle avait été responsable de l'accident de son neveu le peinait pour elle. Mais il connaissait aussi le caractère maussade de Freddy, et il se doutait bien qu'il ne serait pas content de se voir écarté aussi rapidement par Tom. Alors, il enfouit les mains au fond de ses poches et posa ses yeux clairs sur Freddy. Ce dernier grimaça et marmonna. « C'est pas ce que j'ai dit. Je vais être là. De toute manière, on sera pas trop de trois. Alors, si ça te dit de te joindre à nous, Émile, gêne-toi pas. » Le costaud hocha la tête avec enthousiasme, puis les beaux-frères délaissèrent la conversation en constatant que les autres barges s'éloignaient. Tom s'installa à l'étambot et lança d'une voix forte « On y va !» Son partenaire prit place à l'étrave après avoir salué Émile. Le nouveau père sentit une rancœur envahir son être en constatant que Tom ne l'avait même pas félicité pour la naissance de son enfant. Il songea, encore une fois, qu'il pourrait peut-être économiser un peu pour acheter son propre bateau. Il lui faudrait pour cela arrêter d'acheter des vêtements et des chaussures tous les changements de saison. Il aimait beaucoup se vêtir convenablement, mais si la situation se détériorait, il ferait ce sacrifice. En plus, il faut que je lui dise que je serai pas là demain vu que c'est le baptême. Je suis certain qu'il va finir par me remplacer. Il doit attendre juste ça. La seule affaire qu'il retient, c'est le testament de Marcelin. Pour Simone, certaines journées étaient pires que d'autres. Même si elle n'était pas la première mère à perdre un enfant au village, la manière dont le drame s'était produit rendait la situation plus terrible. Son amie Géraldine ne se gênait pas pour dénigrer sa sœur Madeleine à la moindre occasion. Si au début Simone se nourrissait de cette animosité que démontrait la blonde envers sa jumelle, depuis quelques jours, elle éprouvait le besoin de se distancer de ses propos. Le jour précédent, elle avait dit à Géraldine « Sais-tu quoi? Je veux plus que tu me parles de Maddy, plus jamais. »«
Mais quand même! »
avait tenté Géraldine. « Elle va se pavaner avec son bé... »« Non! » avait coupé sèchement Simone. « Plus un mot sur le sujet, j'ai besoin de recommencer à vivre pour ma famille. Ça fait que je te demande de respecter mon choix. » Géraldine avait donc retenu ses paroles. Depuis leur enfance, les trois filles passaient beaucoup de temps ensemble. Toutefois, dans sa jeunesse, la blonde avait été parfois ignorée par les sœurs, qui préféraient rester entre elles. Malgré tout, la femme en quête d'affection tournait toujours autour des jumelles. La famille nombreuse de Géraldine vivotait dans la maison la moins bien tenue du village. Ce n'était un secret pour personne que le père Ivar n'avait pas les moyens de faire vivre ses 14 enfants. Alors, la plus jeune, Géraldine, arrivée sur le tard, avait récupéré les miettes d'affection qui restaient dans le cœur de sa mère. C'est donc dire à peu près rien. Comme elle avait 6 ans de moins que l'avant-dernier de sa fratrie, l'enfant s'était souvent trouvé à trotter seul sur les chemins du village. Marcelin et Carmel l'accueillaient parfois à leur table. Avec le temps, son tempérament emporté avait commencé à ressembler de plus en plus à celui de Simone et à l'adolescence, les deux avaient souvent fait les 400 coups pendant que Madeleine préférait rêvasser ou tricoter. Mais le soir venu, rien ni personne ne pouvait s'immiscer entre les jumelles qui murmuraient dans leur lit jusqu'à tard dans la nuit. La maison qu'habitait la blonde avec son mari Homer et leurs 5 enfants était située à 1 mile de chez Simone. Même si elle avait été froissée par le ton employé par son amie, Géraldine reviendrait quémander son affection après quelques journées de ressentiment. Assise sur la chaise berçante sur son balcon, Simone fixait l'église blanche. Elle se balançait, la tête appuyée contre le dossier, en retenant ses larmes. Prétextant un mal de ventre, elle avait décidé de rester chez elle plutôt que d'aller avec Horace à la grave. « J'ai mal dormi. Ça vous dérange pas trop, le beau-père? » « Prends tout le temps qu'il te faut, ma fille. » Horace lui avait tapoté l'épaule et l'avait assuré qu'il trouverait quelqu'un pour la remplacer. Il n'était pas dupe, mais n'avait pas le cœur à discuter de cette triste situation. Il savait bien que Simone n'avait tout simplement pas la force d'entendre parler du bébé de sa sœur. Plein d'émotions avaient envahi la femme à l'annonce de l'arrivée d'Arthur. Même si elle tentait de l'ignorer, une partie d'elle aurait tant voulu voir cet enfant qui venait de naître. Mais refusant d'y penser, elle choisit de parler à son fils, comme cela lui arrivait parfois quand elle était seule. « Mon petit Éloi, si tu savais comme je m'ennuie de toi. Aujourd'hui, il fait vraiment beau. Un peu chaud peut-être. En tout cas, je t'aurais forcé à mettre ton petit chapeau de toile et t'aurais fait la baboune. » Sous le soleil de plomb de l'après-midi, Simone entendait les cris de sa fille aînée et de son amie Marie-Joseph qui provenaient du champ à l'arrière de la maison. Les enfants du coin aimaient beaucoup s'y rejoindre pour jouer à la cachette. Ils rampaient près des clôtures et se camouflaient dans les herbes, dans l'attente d'être découverts. Béatrice était couchée pour sa sieste et Simone songeait au choc qu'elle avait eu au petit matin lorsque Philomène lui avait apporté son linge de corps pour qu'elle le lave. Parmi les petites camisoles de sa fille, la mère avait découvert le chandail préféré d'Éloi. Comment s'était-il retrouvé dans les vêtements de son aînée alors qu'elle avait tout rangé quelques jours plus tôt? Plongeant le nez dans le coton froissé, Simone avait inspiré de toutes ses forces en serrant le vêtement dans ses mains. Oh! Incapable de retenir ses larmes, la femme s'était laissée glisser contre le mur de la salle de bain en mordant son poing pour éviter de crier. Elle savait que la chose à faire aurait été de ranger le chandail dans un tiroir d'où elle ne le sortirait qu'au moment où Béatrice aurait l'âge de le porter. Mais à la place, Simone était allée dans sa chambre pour le glisser sous son oreiller. Elle pourrait ainsi respirer son petit bout d'Éloi chaque soir avant de tomber dans le sommeil. Tom ne lui parlait jamais de leur garçon. Après les funérailles, il avait jeté les camions de son fils au bout du quai. Il était revenu tard à la maison et lorsqu'il s'était glissé à ses côtés dans le lit, il avait murmuré « On parle plus jamais de ça ». Alors Simone tentait de réapprendre à vivre en se remémorant les beaux souvenirs, ceux qui mettaient un sourire sur son visage. Après le dîner, elle avait sorti son sac de tricot pour s'installer au soleil. Son ouvrage était sur ses jambes et elle ne l'avait guère avancé, perturbée par la naissance de son neveu. Le regard sur la mer, elle réfléchissait tout haut aux derniers événements. Évidemment que Maddy a eu un garçon. Il doit être parfait en plus, murmura-t-elle en passant une main tremblante dans ses boucles courtes. Même si Simone éprouvait la même colère que Tom envers sa jumelle, il s'ajoutait chez elle une tristesse à l'idée de ne jamais connaître la progéniture de sa jumelle. Depuis qu'elles étaient enfants, les sœurs s'étaient promis d'élever leur marmaille ensemble. Il avait fallu la nonchalance de Madeleine pour que ce souhait soit à jamais disparu. Fermant les yeux, la brunette laissa sa tête dodeliner sans résister. Simone sommeillait depuis un moment lorsque Philomène arriva en courant près d'elle, les boucles emmêlées et parsemées de brindilles. Dans ses bras, elle tenait un minuscule lapin blanc. À ses côtés se tenait Marie-Joseph, une mignonne châtaine, déjà rondelette comme sa mère. « Regarde, maman! » dit Philomène à bout de souffle. « Où t'as trouvé ça? en arrière du four à pain! » Simone secoua la tête en souriant. Elle fixa l'animal d'un ton sérieux avant de parler. « On va l'engraisser comme ça, on pourra le manger pour ta fête le mois prochain, Philo. » se moqua-t-elle gentiment. « Maman !» rugit l'enfant en fourrant la petite bête tremblotante sous son bras pour le protéger. Devant la frimousse effrayée de sa fille, Simone éclata de rire. Aussitôt, Philomène sourit à son tour, avant de s'avancer. Elle posa sa main sur la joue creusée de sa mère. « J'aime ça quand tu ris, maman !» murmura-t-elle. « J'avais presque oublié !» Le visage de Simone se referma. Elle fourra son tricot dans son sac en se levant. « Bon, va porter cette bête-là où tu l'as trouvée. On va aller commencer le souper. J'ai promis à papa de lui faire une tarte au sucre. On va la faire cuire dans le four à pain. » Mais les pieds bien campés sur le balcon, Philomène prit le même air entêté que sa mère en déclarant « Je veux le garder !» Simone, occupée à remettre ses souliers, ne répondit pas. Marie-Joseph poussa son amie pour qu'elle réitère son affirmation. Alors, Philomène tira sur la robe grise de sa mère. « Maman, je veux garder le lapin dans ma chambre. »« Voyons donc, toi, pas question. »« Pourquoi? J'ai bien le droit. »« J'ai dit d'aller remettre cet animal-là dans le champ. » Philomène piocha sur le sol en pressant ses lèvres l'une contre l'autre. Connaissant le caractère de son amie, Marie-Joseph descendit prudemment les marches pour s'éloigner un peu. « Non! Moi, je veux l'élever! Arrête de m'achaler, Philo, j'ai dit non! » Exaspérée, Simone repoussa sa fillette qui s'accrochait à sa robe. Mais l'enfant n'avait pas l'intention de se soumettre à l'ordre de sa mère, et elle passa en vitesse devant elle pour se glisser dans la maison avec l'animal dans ses bras. « Philomène la Violette, reviens ici tout de suite !» cria Simone alors que Marie-Joseph partait vers la côte du Sureau en courant. Sans même réaliser ce qui lui prenait, la mère de famille rejoignit son enfant qui refusait d'obéir et souleva la main pour la gifler fortement. « Oh !» gémit Philomène en laissant tomber le lapereau sur le sol. Effrayée, la pauvre bête sautilla partout sur le plancher pendant que Philomène plongea son visage meurtri dans ses mains pour sangloter. « T'es méchante, maman, je t'aime plus !» « Peut-être bien, mais quand je te dis non, c'est non !» riposta sèchement Simone en tentant de ne pas éclater en pleurs à son tour. C'était la première fois de sa vie qu'elle frappait son enfant. La tête tournée vers le couloir où venait de disparaître Philomène, la femme s'approcha de son comptoir et y appuya ses mains tremblantes. Elle leva les yeux vers le ciel sans nuages et murmura, la voix brisée par l'émotion. « Tout ça, c'est ta faute, Maddie. T'as détruit notre vie !» Puis, elle se dirigea d'un pas là, vers la chambre de ses filles pour s'excuser auprès de Philomène. Béatrice venait de faire entendre un cri indiquant à sa mère que son repos était terminé.